Au Liban, c'est le temps de la paix, chers auditeurs. Même si le pays du cèdre s'écroule sous les bombes et les missiles. Mais c'est aussi le temps des paradoxes et des défis d'une nouvelle ère qui commence dans la région du berceau des civilisations. Je parle des paradoxes de la paix dans un temps où les Liban et tel que nous le connaissons cueille les fruits amers, les fruits destructeurs des milices et des armées qui s'arment en missiles, se réclament de Dieu et veulent retrouver les empires millénaires. Oui, chers auditeurs, le paradoxe de la paix dans un pays dont le pouvoir a été confisqué par 50 années d'occupation étrangère, partagée entre la Syrie, Israël et l'Iran. Victime des analogies de l'histoire et ses effets de répétition, notre pauvre gouvernement libanais, légal, légitime, élu par le peuple, il se sent appelé aujourd'hui à reprendre des négociations pour un accord de paix. Commencé en mai 1982, arrêté sous la pression des menaces des pays arabes, surtout la Syrie, et déjà régi par la loi de l'armistice de 1949, et qui paralyse les forces de notre armée et la réduit à une armée impuissante à agir, affaiblie, et qui n'a pas l'autorisation de s'armer avec des vraies frégates, des vrais avions dignes de l'intelligence de nos officiers remarquables, ingénieurs, de nos soldats, de toutes les communautés courageuses, et qui n'ont pas le droit d'intervenir par peur de la guerre civile. Nous avons des défis qui doivent être relevés avec ces paradoxes de la paix. Et ces défis découlent des paradoxes qui se balancent entre une volonté courageuse d'un accord de paix avec Israël, considéré par certains comme étant l'ennemi historique, et la peur d'une guerre civile qui peut découler de l'affrontement de notre armée avec une milice faite en grande majorité de la communauté chiite et une armée, elle aussi, faite par ses soldats de base en grande majorité de la communauté chiite. Imaginez un soldat chiite qui tue un milicien chiite et que les deux soient du même village. Il est certain que le milicien se vengera contre la famille de ce soldat et ça sera le massacre et ça sera l'atrocité de la guerre civile. Mais personne ne veut rester dans ce cercle vicieux. Personne ne veut rester dans un Liban impuissant, dans un Liban sans une légalité et une force armée par sa justice. Et c'est pourquoi le président Joseph Aoun a eu le courage d'affronter ceux qui se réclament de la légitimité de Liban, n'étant qu'une milice et en plus alliés à une cause iranienne, étrangère, dans les ambitions impériales dans la région commencent à s'essouffler. Et c'est pourquoi le Liban se trouve aujourd'hui devant ce dilemme terrible. Où approuver la légitimité et la force qui elle-même est poussée par la plus grande puissance du monde, l'Amérique, à signer la paix, en commençant par des accords qui, dans la Maison-Blanche, ont vu des ambassadeurs se réunir. Mais le président Trump veut aller plus loin. Il veut l'effet théâtral, il a raison. C'est un homme de communication. Il veut que le président libanais serre la main au premier ministre Netanyahou. Et quelle n'était pas la réaction des ministres iraniens eux-mêmes? Quelle n'était pas la réaction des ministres qui représente le Hezbollah au gouvernement, car sachez-le, le parti de Hezbollah a des élus, et cela complique les choses. Quelle n'était pas leur réaction pour menacer le président Joseph Aoun d'un assassinat en direct? Et ils s'y connaissent en assassinat, car cette milice et les chiites en lui-même vivent de cette mystique de la Ashura, de cette mystique du sang versé depuis l'imam Ali et ses enfants et ses petits-enfants. Et ce sacrifice pour eux est total. Ils l'ont fait subir au premier ministre Hariri, à d'autres députés, à des journalistes. Ils l'ont fait subir à Bachir Gemayel lui-même en 82, qui a osé parler de bonnes relations avec Israël et pas totalement de paix, qui a osé avancer les accords du 17 mai 1982 et qui a fini assassiné. Certes, le président Joseph Aoun n'a rien d'un lâche. De même qu'avant lui, le président Michel Aoun, l'homme historique, l'homme des paradoxes lui-même et des contradictions pour d'autres, qui a osé, lui-même allié de cette milice, de leur demander de ne pas s'avancer dans cette guerre qu'ils ont osé appeler la guerre du soutien en 2023-24, après les massacres d'octobre, à justement leur demander de ne pas engager le Liban dans cette guerre. Et là, quand le président Michel Aoun, j'insiste sur le prénom, beaucoup de confusion il n'y a pas, leur demande de ne pas s'engager cette guerre, c'est qu'ils pensaient au bien commun du Liban. L'homme d'honneur, le général qu'était Michel Aoun, n'a pas oublié la cause du Liban. Mais il n'a pas été écouté. De même que Nasrallah lui-même, assassiné aujourd'hui, et qui a subi le martyre de Hassan et de Hussein, n'a pas voulu de cette guerre réellement. Et son intelligence politique, toute libanaise, voyait tellement les dangers qu'il a tellement hésité en agaçant les chefs et les moulas iraniens qui ont fini par exiger de la milice de Hezbollah, qui est à leur solde et qui doit obéir, à aller de l'avant dans cette guerre imprudente qu'on appelle du soutien. Elle a causé au Liban la destruction du Liban Sud. Elle a causé au Liban l'invasion renouvelée de l'armée d'Israël, qui a quand même quitté le Liban en 2000 après plus de 25 ans d'occupation, et qui n'a pas voulu occuper éternellement cette région, mais qui revient aujourd'hui pour détruire systématiquement des trentaines de villages qui ont servi comme un front de Maginot pour les Hezbollah, pour détruire des écoles, des maisons, pour détruire des hôpitaux, mais qui étaient tous armés pour défendre, soi-disant, la ligne de Hezbollah. Si je parle des paradoxes de la paix, c'est que le général Joseph Aoun reprend lui-même cet argument d'un autre général pour dire à Hezbollah que cette guerre que vous appelez de la résistance n'est plus légale dans notre pays, car seul le gouvernement libanais décidera d'une résistance. Seule l'armée du Liban et son gouvernement et son président et son premier ministre et malheureusement aussi son président du conseil qui hésite à suivre cette politique aujourd'hui et qui crée une autre contradiction. Certes, je parle avec vous des paradoxes de la paix, mais le Liban vit les paradoxes de toute la région, car le Liban en lui-même n'est qu'un miroir du Proche-Orient, et plus tard il sera, sans étier à lui dire, comme il a été le miroir des civilisations, il sera le miroir des crises du monde tel qu'on le vit. Et
viens-tu, oiseau de mer, j'arrive d'une grande île, vous annoncez que la terre est proche de quelques milles.
Matelot, le vent est bon, la cambuse fait de jambon, avant d'être si longtemps, à sec de toile dans le printemps.
J'ai voulu vous faire entendre la mer et les vagues de la mer parce que mes invités ont pris le large. J'ai une invitée du Liban, la jeunesse libanaise, qui aujourd'hui résiste pour reconstruire ce pays. J'ai connu la guerre en 75, j'ai accédé à ma majorité, et aujourd'hui, le Liban parle d'une cinquantaine de guerre, et la nouvelle génération doit être représentée pour voir ce qu'il découvre après 50 ans de guerre. Mais j'ai aussi un invité surprise pour vous, d'honneur, car vous avez entendu parler ce matin de Saint-Louis. Et que voulez-vous, tous les pays européens qui ont un roi ont une monarchie, la Norvège, la Hollande, la Belgique, parlent fièrement l'Angleterre. Bien sûr, nous avons vu le roi Charles fièrement de leur arbre généalogique. Malheureusement, paradoxalement, la France, quel temps en parle, elle parle comme une blessure. Mais j'ai eu la joie et l'honneur de retrouver la voix d'un prince de France qui a voulu retrouver la dimension profonde de son pays, de son histoire, et ça n'est autre que Eudes d'Orléans, avec les titres Monseigneur Eudes d'Orléans, je crois prince d'Angoulême. Est-ce que je me trompe, cher Eudes ?
Non, non, vous ne trompez pas du tout, cher Antoine.
J'ai mis toute la dose.
Oui, tout à fait.
Alors, je suis très heureux de vous recevoir, surtout qu'ensemble, nous avons eu des aventures philosophiques bien réalistes avec saint Thomas et saint Augustin et quelques matchs de volley-ball où vous nous écrasiez avec votre immense taille car vous n'aviez pas besoin de sauter pour nous smatcher, n'est-ce pas, devant Saint-François de Sales. Vous vous rappelez de ces souvenirs?
Tout à fait, tout à fait. Ça remonte à bien loin.
À l'IPC, bon, l'Institut de philosophie comparée. Alors, je vais vous avoir et j'ai mis ce jeune Libanais avec nous parce que, figurez-vous, vous qui, dans votre actuelle mission pour la France, vous allez nous en parler, vous voulez rejoindre la France profonde. Et j'ai trouvé que pour commencer, de donner cet exemple de votre ancêtre Saint-Louis qui est venu au Liban en 1244, pour faire la guerre d'Égypte, tombé prisonnier à Damiet, mais après libéré par des chevaliers aussi bien croisés que maronites, il se retrouve à découvrir la montagne libanaise, aller chez nos moines et demander à ce que les maronites deviennent des sujets de roi de France. Donc on peut dire devant vous, Monseigneur, que nous sommes des Français 3 siècles avant les Bretons. Si vous voulez, ça agace les Bretons, et vous, vous nous donnez, nous sommes sujets de roi de France, et que cette dimension profonde certainement vous touche. Alors je vous écoute pour votre projet du retour à l'histoire profonde, ce que vous appelez le temps long de la France, et quelle image vous gardez de votre ancêtre? Tous les Français se considèrent descendants de Saint-Louis, mais vous, vous l'êtes par le symbole et par le sang. Alors, on vous écoute.
Merci beaucoup pour cette disponibilité que vous me donnez ce matin pour intervenir. C'est vrai que je ne suis pas historien, donc je me définis différemment parce que je suis chef d'entreprise, j'interviens comme consultant et je vois que la France et les Français sont vraiment passionnés par l'histoire et je me suis dit, il faudrait qu'un membre de notre famille puisse réinterroger cette histoire longue qui a fait la France. Et c'est un peu l'objet de ma lettre hebdomadaire que j'ai lancée sur Substack, disponible gratuitement en ligne, qui justement va permettre cette interrogation profonde sur l'histoire, les institutions, les récits, les croyances politiques, les fractures territoriales, les continuités. C'est un objectif de publication simple, une sorte d'essai lisible, structuré, exigeant, sans vouloir plonger dans la nostalgie du passé, mais avec vraiment un éclairage du passé par rapport au présent. Et ce qui me touche dans ce que vous dites aussi, ce matin par rapport au Liban. En fait, j'ai fait lire cette lettre et les différents documents que j'ai déjà publiés à des personnalités libanaises et elles m'ont dit, mais finalement, on se rejoint parce qu'on a la même interrogation. Comment est-ce qu'on peut faire unité, faire un pays, un peuple avec toutes nos fractures, avec toutes nos difficultés passées, présentes? Comment est-ce qu'on peut construire un futur? Et c'est un peu l'objet de cette lettre. Et cette personne libanaise me dit, ce document, ces lettres m'intéressent beaucoup pour le Liban actuellement, parce que vous donnez des clés de lecture que en tout cas, moi, j'essaie de transmettre tout simplement, des clés de lecture pour trouver de nouveau des chemins d'apaisement pour le futur de nos pays réciproques. Donc, c'est vraiment l'objet de cette lettre. Donc, j'ai écrit la première, c'est « La France n'est pas en train de mourir ». C'est vrai que beaucoup de gens pensent que la France est en train de mourir et que c'est la fin du monde, mais je réinterroge le passé en montrant que finalement, ce n'est pas le cas. On a été au bord du gouffre plus d'une fois et on a réussi à rebondir plus d'une fois. J'interroge aussi l'économie, j'interroge la politique, j'interroge l'écologie. Donc c'est vraiment des sujets, moi, qui me passionnent, que je veux partager et sur lesquels, évidemment, on peut trouver des chemins des chemins d'entente. Dans les deux commentaires que j'ai déjà reçus, ou en tout cas que j'ai trouvé assez positifs, hein, outre cette personne libanaise, j'ai un chef d'entreprise qui me dit que bon, votre lettre, c'est passionnant, cher Eudes, profondément et très intéressant. Quoique n'ayant aucune obédience politique de quelque bord que ce soit, j'admire votre manière d'analyser l'histoire et d'en tirer des leçons. Et donc, c'est un peu l'objectif, c'est tirer des leçons de l'histoire pour le présent et pour le futur. Permettre aux gens de se dire, bah, finalement, on a quelque chose de commun et on peut le partager. J'ai une autre personne qui m'a dit, et ça m'a aussi beaucoup touché, vous êtes le premier Français que je rencontre qui aborde cette question sous cet angle-là. Donc pourquoi pas, si j'intéresse des Français nouvellement arrivés ou des Français de quelques générations, en tout cas de Français. Ça leur permet justement de s'interroger et de voir qu'il n'y a pas uniquement gauche-droite, catholique, non-catholique, révolutionnaire d'un côté, etc. Donc, non, non, j'interroge et je donne des chemins de réflexion pour les gens. Donc, voilà. Donc, un peu les éléments que je peux, en tout cas, vous communiquer ce matin. J'ai une prochaine lettre qui va sortir. Dimanche sur Tocqueville, parce qu'on s'interroge beaucoup pourquoi les Français ne s'intéressent plus à la politique. Donc voilà, c'est une façon aussi de réinterroger à travers un auteur le passé entre la Révolution, entre la monarchie et la République, et pourquoi finalement la République, en reprenant, je dirais, l'appareil d'État monarchique, s'est substituée à un certain nombre de corps intermédiaires. Et ces corps intermédiaires nous manquent actuellement. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a plus aucun, je dirais plus aucun tampon entre le citoyen et l'État. Et c'est un peu dommage. On pourrait réinterroger les Français sur cet élément-là. Donc voilà un peu les réflexions que je vous partage ce matin. Et j'espère que ça peut aider, en tout cas, Gilbert et d'autres personnes à trouver des solutions pour leur pays aussi, parce que c'est un magnifique pays, le Liban.
Bien sûr, alors, cher Eudes d'Orléans, pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'émission, et Monseigneur, ce projet, vous le méditiez depuis quand? Parce que vous êtes
Oh,
dans
c'est...
l'histoire de France depuis des siècles, et d'un seul
Oui.
coup, vous pensez à cette lettre. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient ce déclic? Quelqu'un vous a giflé, votre épouse s'est réveillée un bon matin et dire « Je vais être fier de vous ». Que
Non, non, il y a
s'est-il
plusieurs.
passé?
En fait, il y a la technologie le permet maintenant, dans le sens où ça fait déjà plusieurs années que je réfléchis sur comment communiquer sur la monarchie, sur les liens entre le passé et le présent. Alors, j'ai commencé à le faire à travers des sites internet sur la généalogie familiale, sur les princes d'Orléans artistes, sur donc j'ai déjà donné des conférences sur ce lien avec l'histoire de la famille sous le côté artistique, par exemple. Et puis cette conférence, je vais la redonner au château d'Amboise au mois de juillet. Mais là, j'ai souhaité aller beaucoup plus loin et être un peu un complément de ce que mon frère Jean, comte de Paris, est en train d'actuellement de mener, lui plus sous l'aspect politique. Moi, j'ai souhaité plus sous l'aspect historique, réinterroger les Français, les Françaises sur justement leur propre histoire et montrer que, en fait, on a qu'une histoire commune et donc il faut construire ensemble pour que l'avenir de nos enfants, parce que Je suis très sollicité par deux jeunes étudiants, mes enfants Thérèse et Pierre, qui sont tous les deux étudiants. Thérèse aux États-Unis à Princeton et Pierre en Angleterre au King's College. Et c'est vrai, on a beaucoup d'échanges depuis plusieurs années sur l'état de la France et surtout sur ce que je pouvais apporter comme vision. Et très souvent, elle me dit, mais papa, faut que tu sois plus positif, faut que tu aies une vision constructive parce que nous, notre génération, on a beaucoup de mal. Et donc, je me suis réinterrogé aussi sur moi-même en disant, mais finalement, ils ont pas tort. Leur génération a besoin d'espérance, a besoin d'une vision, j'irais plus sur le temps long, et de montrer finalement que la France, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est aussi dans la continuité de ce qu'elle a été dans le passé, et que le passé permet d'éclairer le présent et de construire le futur. Et donc, c'est sous cet angle-là que j'ai souhaité petit à petit écrire. Et puis, j'ai trouvé ce réseau qui est Substack, qui permet justement pour les écrivains, journalistes et personnes, des poètes, des essayistes, tout le monde essaye de communiquer justement sur ce réseau. Et je me suis dit, moi, j'ai ma place là aussi. Donc, voilà, c'est une façon de m'impliquer à hauteur d'homme dans ce que je pense être bien et bon pour mon pays, pour la France, pour les jeunes, pour le futur, voilà.
Donc, si je comprends bien, Monseigneur, d'Orléans, vous rejoignez, sans le vouloir peut-être, il y a des analogies parfois, les grands esprits se retrouvent, la vision gaullienne de l'histoire de France, parce que De Gaulle disait finalement que il n'y a pas la monarchie puis la République, je ne divise pas les deux, il y a une seule continuité de l'histoire de France, et c'est toujours la France elle-même, dans sa grandeur, qui continue. Est-ce que vous rejoignez cette vision?
Ah, complètement. Et puis mon grand-père l'avait rejoint aussi en son temps, quand il a eu des échanges avec le général de Gaulle et avec cette possibilité de peut-être de réinstaurer la monarchie en France après la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que cette vision du temps long et qu'il n'y a pas de rupture, même si dans l'esprit de certains, il faut qu'il y ait des ruptures justement pour nommer l'ennemi à abattre et surtout pour montrer du doigt, je dirais, l'opposant. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique. On a une seule histoire. Elle commence très, très, très loin. Il y a des visions différentes. D'accord, ok, j'accepte. Il y a des façons de voir différentes notre propre histoire, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut nier une partie de ce que l'on est. Et c'est sous cet angle-là, parce qu'on n'arrive pas je dirais pas à se pardonner, mais à avoir un regard en vérité sur notre propre passé qu'on ne peut pas actuellement construire. Parce qu'on est en permanence en train de se critiquer, et je prends un exemple, hein, l'exemple des Jeux Olympiques avec Marie-Antoinette, la tête coupée dans les bras, en train de chanter Ça ira, ça ira. Il y a un moment où il faut que la France arrive à avoir un discours vrai sur ce qu'elle a été. Il y a des éléments épouvantables pendant la Révolution française. Il y en a d'autres qui ont essayé de construire des choses, et le roi en faisait partie, de construire des réformes, etc. Donc il ne faut pas tout jeter par-dessus bord. Mais je pense qu'on a besoin d'un regard apaisé sur notre propre passé pour construire le futur. Sinon, la vie est de plus en plus difficile. On le voit, l'économie est difficile, la politique est difficile. Donc il faut trouver de nouveaux chemins, je dirais, de construction commune. Mais pour ça, il faut un regard de vérité sur son propre passé.
Voilà. Alors, je crois que, bon, qu'un des auditeurs me corrige si je me trompe, pendant les Jeux Olympiques, il y a une des figures royales de l'Europe a quitté la tribune quand elle a vu cette mise en scène macabre et sanglante de la tête de Marie-Antoinette. C'était pas un des princes ou des rois d'Europe, qu'on me corrige, qui a quitté en voyant cette mise en scène. mais on me le dira. Et donc, j'ai évoqué Saint Louis, bien sûr, auditeur, vous me dites que je prononce très vite le nom, c'est Louis, j'oublie pas cette prononciation, je parle vite dans mes chroniques, beaucoup de choses à dire, donc c'est Louis avec ce O de l'or qui est son âme, et j'aimerais bien, devant vous, faire preuve de cette France profonde par la réaction d'un jeune et brillant Libanais qui vit de cette histoire de France et ses relations, et lui poser des questions à Gilbert Kamel, qui est dans l'histoire des sciences politiques, étudiant brillant. Comment les Libanais, cher Gilbert, réagissent quand on parle de Saint-Louis au Liban? Gilbert.
Bonjour monsieur docteur Antoine, bonjour monseigneur.
Bonjour Gilbert.
Merci de m'avoir accueilli. Pour nous, la France, c'est une histoire qui rejoigne ces deux pays depuis les années 1200. La France, depuis des siècles et des décennies, c'était la protectrice des chrétiens et surtout des maronites au Liban. Mais à un moment donné, on a vu, surtout avec les présidents depuis les années 70 jusqu'à 80, avec les politiques étrangères qui ont frappé le Liban avec une ambiguïté totale, on a vu, nous, les chrétiens du Liban, nous étions choqués. Mais avant tout, toutes les figures de la France, les royaux Saint-Louis, Charles de Gaulle, ce sont des figures emblématiques, historiques, qui nous marquent et qui rejoignent ces deux peuples sous une relation qui est très, qui est très enracinée. On a la même langue, on a la même culture et nous sommes des chrétiens.
Alors, Monseigneur, comment vous réagissez? Est-ce que vous voyez des fruits portés de votre ancêtre, le roi, sur cette jeunesse libanaise qui aurait pu aujourd'hui être carrément d'un autre monde et d'une autre langue? D'entendre un jeune chrétien du Liban, des cèdres du Nord, parler la langue de, je dirais, de Saint-Louis. Molière, on le laisse de côté pour le moment.
C'est vrai que la France et les Français ont un lien particulier avec le Liban. Et vous le soulignez très bien, Gilbert, hein, surtout avec les chrétiens. La France a toujours essayé d'établir des ponts spirituels, entre autres, mais aussi politiques, avec le Liban. Ça s'est ressenti, que ce soit avec Saint-Louis, vous parlez du général de Gaulle. C'est vrai que c'est dans notre ADN, d'une certaine façon, de garder ces liens. Même si les présidents de la République ne sont pas aussi fidèles qu'on ne pourrait l'espérer sur ce point-là, parce qu'ils ont une autre stratégie, une autre politique, une autre vision des choses, je pense que les Français, en général, ont gardé ce lien, et surtout les catholiques français ont gardé ce lien et maintiennent ce lien fort et fidèle vis-à-vis du Liban, vis-à-vis des Maronites, vis-à-vis de ce que vous vivez actuellement. Ça fait partie de notre ADN. Saint-Louis l'a construit et je pense que plusieurs générations après, on garde toujours ce lien. Et ce lien sera toujours existant jusque dans l'éternité. Donc, je pense que moi, j'ai aucun doute sur cet élément-là.
Voilà. Alors, Monseigneur, ce que je vous propose, c'est que votre chronique soit suivie par mon émission, qui passe une fois par mois, et que, ou bien vous-même, vous devenez chroniqueur, on entend votre voix, on renvoie au lien, pour que vous puissiez communiquer à travers cette radio, comme vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Moi, je me réjouis, je vous ai lu, et je trouve que ce lien avec la France profonde arrive à un moment où les Français doivent faire un choix dans leur vie, dans leur culture et leur morale. Sinon, la jeunesse libanaise restera là avec nous. Tant que Gilbert s'appelle Gilbert et ne change pas de prénom et de baptême, on pourra toujours mener la même, je ne veux pas dire croisade, mais la même bataille de nos jours. Et j'étais très heureux d'entendre un peu cette sérénité conciliatrice entre vous, donc, dans le projet avec votre frère, le prince Jean, que nous avons connu, j'ai bien connu, qui aussi œuvre. Et votre tâche n'est pas facile. Moi qui connais un peu les familles européennes royales, par exemple, en Autriche, un Habsbourg est facilement ambassadeur. C'est un Habsbourg qui est ambassadeur de la Hongrie, etc. Il n'y a pas ce complexe. Moi, je rêve d'un jour qui est à Orléans, ambassadeur du Liban, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez? Vous accepterez cette tâche si on vous la propose?
Avec joie, bien sûr. Mais je pense que le sujet n'est pas là. Et c'est vrai que je replonge de nouveau dans mes documents, dans mes textes, sur la situation que la France actuellement est toujours dans un tribunal permanent. Et de ce fait, parce qu'elle est toujours dans un tribunal permanent, elle ne peut pas faire le pas justement pour accepter des princes et des princesses de France dans des institutions politiques représentant la France à l'étranger. Et donc, on a encore un chemin surtout pas de repentance, surtout pas d'oubli, mais un chemin de reconnaître ensemble le passé commun qu'on a eu et sur lequel on peut construire quelque chose. Dans ce cas-là, on pourra, si la République nous propose d'avoir un rôle, à l'international, pourquoi pas. Mais pour l'instant, non, c'est mentalement impossible. C'est mentalement impossible. D'autant plus que on reste l'ennemi de la République. Et je suis en train d'écrire un autre texte sur une loi. Ben, elle date de 1886. C'est la loi d'exil qui a frappé les aînés des branches qui ont régné sur la France. Donc ça a touché que deux familles, les Orléans et les Bonaparte. Ça n'a pas du tout touché évidemment les Bourbons d'Espagne, les Bourbons Sicile, les Bourbons Parme, etc. C'est les deux familles qui ont été impactées par cette loi d'exil. Mon grand-père est revenu d'exil en 1950. Donc vous voyez que l'ennemi désigné reste toujours les deux familles qui peuvent avoir encore un rôle actuellement à jouer en politique.
Bien sûr.
Et surtout, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Et donc, nous donner un rôle comme pourrait avoir un Habsbourg en politique, pour eux, c'est idéologiquement impossible. Parce que, justement, on n'a toujours pas résolu notre problème de révolution, notre problème d'unité, notre problème... On est toujours permanence d'opposition droite-gauche, royaliste, républicain, le puy-du-fou d'un côté, la France créole de l'autre. Je dirais non, c'est pas possible. Je dirais on peut pas éternellement, on s'épuise, la France s'épuise à se battre contre elle-même.
Voilà. Écoutez, Monseigneur, vous avez évoqué quelque chose de très douloureux, c'est qu'il y a une tourmente, en effet, que je ne sens pas en Norvège, que je ne sens pas en Suède, qui d'ailleurs une monarchie qui, grâce à Bernadotte, qui a hérité quand même, est la France. La Belgique, elle aussi, les liens sont très liés avec la couronne de France, qui était le roi le plus important d'Europe. On disait le roi de Pologne est mort, mais quand le roi de France est mort, on disait le roi est mort. Et oui. Ça, c'était une chose importante. J'espère que vos chroniques, votre retour à la France profonde, va apaiser cette tourmente et que si un président ne veut pas nommer un prince de France de sang d'ambassadeur, autant le faire par des concours. J'ai eu en canne d'Henri IV une brillante Thérèse d'Orléans qui a un peu débranché les chroniques tellement elle était brillante. Et je crois que c'est une princesse que vous avez mise et élevée, bien sûr, mise au monde. Est élevée, n'est-ce pas? Et je crois que par son nom, elle a accédé par les institutions de la République. Et aujourd'hui, elle continue, n'est-ce pas?
Tout à fait, elle continue. Elle va terminer l'ENS bientôt. Là, actuellement, elle est à Princeton en échange avec l'université. Elle est passée par Sciences Po. Elle a fait un master en sciences politiques, relations internationales, pardon. Pendant cela, moi, mon fils, Pierre, lui, est au King's College à Londres. en histoire médiévale, et puis il continuera son chemin aussi à sa façon. Donc les deux, je dirais, ont cette capacité d'être en même temps d'être engagé dans le monde actuel avec les problématiques actuelles, et en même temps de garder leur spécificité qui est celle de notre famille. Donc on arrive à faire cette unité sans aucune difficulté.
Voilà, je crois que peut-être un jour, on espère qu'une Thérèse d'Orléans deviendra ambassadeur de Liban, de France au Liban. Et elle l'acceptera, on essaiera de la convaincre. Monseigneur, si vous voulez rester avec nous, parce que la jeunesse a osé un peu venir dans les amphithéâtres anciens de la Sorbonne, amphithéâtre Richelieu, pas n'importe lequel, où nous avons, jeunes professeurs, donné nos premières conférences, pour concourir autour du thème de la mer. Et j'ai demandé à une lauréate qui est de l'École nationale supérieure de la marine marchande, l'ENMS, de reprendre son discours devant nous. Et pour reprendre ce discours, j'étais très étonné qu'à la Sorbonne, cette jeune et brillante Margot Guiguin et déclencher une chanson sur la mer qui me rappelle le départ des croisés vers le Liban. Alors que je demande à Margot de se préparer, la chanson va partir et elle-même, restez avec nous, Monseigneur, si vous n'êtes pas pris par un match de volley-ball ou par autre chose, la France profonde, que la chanson résonne pour Margot.
Viens-tu, oiseau de mer, j'arrive d'une grande île, vous annoncez que la terre est proche de quelques milles.
Matelot, le vent est bon, la cambuse fait de jambon, avant c'était si longtemps, à sec de toile dans le gros temps.
Est-ce vous, capitaine Trude, qui vous posez sur le pont, lorsque se gorgent nos coudes au bois du malin timon?
Matelot, le vent est bon.
Et me reconnaissez-vous, capitaine Trude, moi qui d'avoue, et puissant coup de bâton à charge de punition.
Matelot, le vent est bon, la cambuse pleine de jambon, avant c'était si longtemps, à sec de toile dans le gros
Margot Guiga.
Merci beaucoup. Je peux commencer mon discours maintenant?
Absolument, après la chanson que vous avez chantée à la Sorbonne.
Oui, c'est ça, c'est exact.
Là,
Donc,
j'ai
ça rendait
senti
pas la
la
même
version que vous m'avez envoyée. On vous écoute, vous allez
chose. C'est ça.
concourir devant un jeune Libanais, Gilbert Kamel, et un prince d'Orléans. Vous êtes une petite princesse du Havre, n'est-ce pas?
C'est ça.
Allons-y, Margot. Un
Alors.
Margot, c'est des reines, c'est pas des princesses. Bon, allons-y.
Alors, merci à tous ceux qui nous écoutent. Pardonnez cet exorde, ma foi, quelque peu spécial, n'en déplaise à Aristophane, mais moi, je suis avant tout marin. Chez nous, pour prendre le large, les chants sont hurlés, pour motiver l'équipage sur toute une traversée. Je me devais de rendre honneur à celles et ceux qui sont venus faire escale à la capitale. Quel magnifique temps. Alors, en ce moment, il pleut peut-être, mais lorsque je suis passée pour effectuer ce discours, il y avait un beau temps, un magnifique soleil sur Paris. C'est cette petite brise qui m'a amenée loin de mes terres, ou plutôt loin de ma mère, si belle, si douce, parfois si déchaînée, pour la retrouver, pour découvrir de nouvelles terres. Mesdames et messieurs, j'avais consenti à quitter mon rivage. Oui, cher public, j'ai quitté tout ce que je connaissais. Ma maison, ma famille, ma ville, mes amis, quasiment tous à Paris. Oui, j'ai quitté l'équipe de Beauvais pour m'installer au port Havret. Je veux être marin. Alors, quoi de mieux que de prendre le large, tenir la barre et mettre le cap sur l'horizon? Telle sera ma vie sans contrefaçon. Je n'ai point besoin d'une quelconque leçon. Capitaine, 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 terre en vue, ce sont les Indes, cria donc le veilleur à notre cher Christophe Colomb. Nous le connaissons tous, ce navigateur hors pair qui mit 2 mois à atteindre ce nouveau monde, cette nouvelle terre. Certes, il n'avait pas le compas dans l'œil, mais d'un coup de crayon, il permit l'élaboration des cartes, le lancement des expéditions et l'essor même de sa nation. Tout en laissant sur le quai ses deux petits garçons. André Gide avait raison. On ne découvre pas de nouvelles terres sans consentir à perdre de vue le rivage. Il est vrai qu'on ne peut vouloir accomplir de grandes choses en restant cloîtré dans sa chambre ni prétendre vouloir être champion olympique et ne s'exercer qu'en politique. Mais cette maxime met aussi en avant cette nécessité de prendre la mer sans regarder qui allons-nous laisser derrière. Qu'est-ce qui a bien pu l'attirer au-delà de ses contrées? Quoi donc peut motiver l'homme à vouloir tout abandonner? Le prestige? La fortune? Non, les territoires, les ressources? Non, l'homme est bien trop curieux, orgueilleux et marchandeux pour cela. Ainsi, pour répondre à cette promesse de devenir quelqu'un, se faire une place dans cette société, il faut non seulement abandonner ses principes pour accomplir quelque chose de nouveau, mais aussi accepter soi-même de quitter ce que l'on connaît par cœur au profit d'un monde meilleur. Alors, bravo à nos explorateurs pour la recherche de richesses, de routes concurrentielles, de territoires, soi-disant sans histoire, nous vivons aujourd'hui dans le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Mesdames et messieurs, je m'adresse aux marins, mais aussi à tout corps de métier. Que vous soyez artiste ou chirurgien, juriste ou agent d'entretien, nous naviguons sur la même terre. Il y a ceux qui veulent la parcourir, en faire le tour ou l'exploiter dans son unicité. Certains œuvrent aussi pour la quitter. Oui, même dans l'espace, il n'y a pas que le soleil qui rayonne. Il y a aussi notre humanité. En ces temps où les conflits nous surplombent, ce n'est pas le rivage qui était perdu de vue, c'est la morale. La compassion, si ce n'est pour dire la raison. 1 000 000 de mille sabords, il y en a aujourd'hui qui naviguent beaucoup trop loin, prennent leur matelot pour de la chair à canon, à jouer entre missiles et expulsion, sans savoir qu'en mer, il faut sans cesse veiller pour éviter l'abordage. Évidemment, ce n'est jamais eux qui finissent par s'échouer. Ce sont les mêmes qui s'amusent à couper l'aileron des dauphins aux îles Féroé, à chercher en vain le dégel de l'éternel glacier, puis qui pillent à terre, pillent et détruisent ce sol, ne laissant qu'un trou béant engorgé de plastique et autres polluants. Il est exact. Il faille consentir à s'éloigner du bord pour s'accomplir, s'émanciper et s'épanouir. Mais parfois, il est préférable de rester là où on a pied en attendant d'apprendre à nager, au risque sinon de se noyer. Car de nos jours, ce n'est pas des requins dont il faut se méfier, mais bien de ceux qui ont le pouvoir de contrôler les courants et marées. Mesdames et messieurs, nous allons tous quitter ce rivage, un jour ou l'autre. Dans le même bateau, qui sait, l'homme est un explorateur à la conquête du bonheur. Cela ne veut point dire il faut incendier l'estran, renier la terre d'antan, ni même arracher ses racines ou bien faire exploser ses quelques collines. Vous serez bien content lorsque d'une mer bien trop agitée, vous dériverez vers ce rivage qui, de son sable bien doré, sera en mesure une nouvelle fois de vous bercer. Qui souhaite revoir la terre drapée de mazout? Allez-y, je vous écoute, pensez comme ceux qui, à 20 000 lieues sur les mers, ont craché sur leurs repères, sur leurs vieux pères, se plaignent du mauvais poisson, d'un air trop sec, de tous ces changements de saison et de ces scientifiques qui en ont la raison. Auditoire. Lorsque vous serez en mer, rappelez-vous qu'au-delà de ces flots, il y avait ce rivage qui, jusqu'alors, a maintenu votre tête hors de l'eau. Consentir, c'est bien ironique pour cet André Gide. Je vous le dis à vous. Consentez ce que vous voulez, mais ne sombrez pas à devenir une de ces chimères destructrices des nouvelles terres. Souvenez-vous que pour l'homme, la terre et ses 70% d'eau demeurent et demeurera notre seul sanctuaire.
Matelot, le vent est bon, la cambuse fait de jambon, avant d'être si longtemps, à 5 toiles dans le bon temps.
D'où viens-tu, oiseau de mer? J'arrive d'une grande île, vous annoncez que la terre est proche de quelques milles.
Matelot, le vent est bon, la cambuse fait de jambon, avant d'être si longtemps.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, chère Margot Guiguin, vous êtes toujours avec nous?
Oui, tout à fait.
Alors, c'est un discours qui n'est pas, bien sûr, oublié, puisqu'il a été primé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce prix que vous avez reçu et de qui avez-vous reçu ce prix en amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne?
Alors oui, tout à fait. Donc j'ai reçu le prix du public, donc qui s'est fait à l'applaudimètre. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé justement à ces applaudissements qui m'ont permis de remporter ce prix, qui m'a été délivré par Monsieur Bertrand Deleken, qui justement représente et directeur, il me semble, du journal Marine et Océan.
Absolument, et qui m'a fait l'honneur d'être avec nous. Et vous avez fait quelque chose de qui rejoint la France profonde, c'est que vous avez prononcé le nom à l'ancien breton, parce que Bertrand de Lesquen ou Lesguen, n'est-ce pas, qui dirige Marine Océan, est avec nous. Je vois son nom. Est-ce que Bertrand de Lesquen m'entend? Ah, bon, et on va essayer de le retrouver, si. Est-ce que
Allô?
Bertrand de Lesquen, vous m'entendez?
Je vous entends très bien.
Alors, vous avez pu écouter, réécouter le discours de Marguerite Guiguin, puisque c'est vous qui l'avez primé d'un bel chèque. En tant que Libanais, je n'ai pas le droit de mentionner les zéros qui suivent le 1, mais un très beau prix est mérité. Parlez-nous de ce prix et pourquoi Marine Océan, revue que vous avez presque créée de rien, l'avez fait, vous nous parlez de vos projets.
D'abord, on a été très content de participer à ce concours d'éloquence. C'était la deuxième année que nous participions à ce concours d'éloquence qui est organisé par la fondation, enfin l'association Deep Blue et qui met en valeur comme ça la jeunesse, hein, qui met en valeur l'éloquence et le talent. Et Margot Guiguin représente tout à fait bien cette jeunesse. Et on a été, nous, d'autant plus heureux de la primer. Enfin, c'est le public, hein, qui l'a fait gagner, mais on a été très heureux de lui remettre ce prix parce que Margot Guiguin est élève donc, de l'École nationale supérieure maritime, et donc c'était tout à fait symbolique pour nous de lui remettre ce prix. Et avant d'ailleurs de parler de Marine et Océan, je trouverais qu'il serait intéressant de parler de l'École nationale supérieure maritime et de demander à Margot de nous raconter, de nous expliquer ce qu'est cette école. Parce qu'elle est absolument essentielle pour la France. Hein. C'est une école qui participe à la souveraineté de la France. Donc, si vous en êtes d'accord, je suis très content que Margot nous la présente.
Avec joie, il n'y a pas que la Sorbonne, même si la Sorbonne reste la Sorbonne. Alors, Margot, de quoi s'agit-il de cette école nationale? Déjà, vous êtes au Havre, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis dans le cursus monovalent. Alors, donc l'UNSM, c'est l'école de la marine marchande. Qui est donc basée en France. Nous avons plusieurs sites, Saint-Malo, Nantes, Marseille et Le Havre, pour justement différents cursus. Essentiellement le polyvalent qui est basé à Marseille. Et moi, je suis donc monovalent, donc je vais exercer des fonctions d'officier plus tard à bord des navires de la marine marchande avec un statut d'officier. Voilà.
Statut
Ça veut
d'officier.
dire.
Oui, Bertrand de Lesquin.
Oui, Margot, vous êtes en quelle année exactement de l'ENSM?
Alors moi, je suis en première année. C'est ma toute première année.
Première année, et vous partez pour 3 ou 5 ans?
3 ans.
3 ans, hein, 3 ans, c'est ça. Et à l'issue de ces 3 années, vous êtes officier pont, vous êtes officier à la passerelle d'un navire de commerce.
C'est ça, tout à fait.
D'accord. Et vous êtes combien d'étudiants chaque année à l'ENSM?
Alors, je pourrais pas vous dire un titre précis. Je sais que moi, dans ma formation, on est une promo de 60, 60 en première année. Donc, si on fait le calcul, 60 fois 60 plus 60 plus 60, on arrive à quand même plusieurs élèves dans ma formation. Tandis qu'à Marseille, alors je parle beaucoup de Marseille parce que la formation comprend beaucoup plus d'élèves. Il y a des promos de 180 personnes. Chaque année qui arrive sur le site, par exemple. Donc, ça fait quand même un beau petit monde dans l'école.
Avec
Oui,
une
c'est ça.
mixité garçon-fille importante.
Tout à fait. Ça se démocratise et se féminise beaucoup
Absolument.
comparé à ce que l'on pourrait penser. On est beaucoup de filles. Alors, je sais que moi, dans ma promotion, on est quasiment autant de filles que de garçons.
Et bien
Ça, c'est
sûr. Oui,
très
Bertrand de
étonnant.
Lesquin, je vous écoute.
Oui, je dis que c'est assez étonnant et c'est vrai que la féminisation dans le monde maritime, c'est une vraie tendance. Hein. C'est un milieu qui est un milieu d'hommes hein, quand même, mais qui a tendance à beaucoup se féminiser. Donc l'ENSM illustre cette tendance et c'est très bien. C'est très bien.
Et donc voilà, donc nous étions effectivement très heureux de remettre ce prix à Margot, parce que l'ENSM, c'est un peu l'ENA de la mer, quoi, si vous voulez. Donc c'était très, très important.
Alors je vous signale que l'école navale où je fus professeur pendant une dizaine d'années, j'ai vu l'amphithéâtre entre 2000 et 2020 de 3-4 filles, futurs officiers de la Royale, à presque la moitié de l'amphithéâtre. Et les majors de la Jeanne d'Arc, qui étaient des garçons bien machistes au début, finissaient par être des filles. Et nous avons eu le premier amiral femme et un capitaine de vaisseau, et aujourd'hui de plus en plus de filles commandent. Alors, Monseigneur d'Orléans, je trouve ça rien d'étonnant, vous qui travaillez sur la France profonde, parce que Saint-Louis est parti avec Marguerite de Provence, sa femme. Il a eu deux enfants à Tyr, à Sidon, chez nous au Liban, et c'est Marguerite de Provence, comme vous le savez, ça mérite un article de votre part, qui a commandé les croisades quand Saint-Louis était prisonnier à Damet chez les Égyptiens, je ne me trompe pas, puisque c'est votre ancêtre. C'est étonnant, ça.
Tout à fait raison. Et puis je rebondis aussi sur un autre personnage de l'histoire de France qui était un amoureux, un passionné de la marine, c'est Louis XVI. Louis XVI, au moment où il est allé se faire se guillotiner, se retourne vers les bourreaux en disant « Avez-vous des nouvelles de monsieur de La Pérouse ?»
Absolument.
Louis XVI était un passionné de marine et il s'était plongé déjà dans les voyages de Bougainville, qui était un grand explorateur sous son grand-père, Louis XV. Et il a décidé, au cours de son règne, de construire une exploration scientifique avec la Pérouse pour justement faire le tour du monde, pour que la France soit présente. Il avait vraiment une ambition pour la France, une vision pour la France du point de vue maritime, ce que la Révolution française, malheureusement, ne lui a pas permis de faire aboutir, en quelque sorte. Mais ce roi, et je reviens sur un autre élément, vous parlez du Havre, moi je vais parler de Cherbourg. C'est le seul endroit où le roi est allé faire une visite en dehors de Versailles. Pour un roi, c'était exceptionnel de faire des expéditions en province, parce que, un, c'était loin en carrosse, et deux, c'était pas facile. Mais à l'époque, le seul voyage en dehors de Versailles que le roi a fait, c'est à Cherbourg, pour superviser donc les travaux de la rade de Cherbourg, et la ville de Cherbourg porte encore le seul nom de rue qui porte le nom de Louis XVI. C'est le seul endroit en France où on a la rue Louis XVI à Cherbourg. Donc ce lien entre le roi de France, vous avez parlé de Saint-Louis, mais moi je parle un peu plus de Louis XVI, à travers les expéditions de Bougainville et de la Pérouse, ont été vraiment des éléments importants du règne de Louis XVI et le lien entre la marine et le roi. Ce lien s'est confirmé ensuite chez un de mes autres ancêtres, le prince de Joinville, un des fils de Louis-Philippe, qui était marin. Il a commencé comme mousse et il a fait tous les échelons, je dirais, de la marine jusqu'à devenir amiral au moment de la monarchie de Juillet. Il a fait des expéditions un peu partout, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Il a fait revenir les cendres de Napoléon. Et il a été un des premiers à réfléchir sur le passage de la voile à la vapeur. Il a été visionnaire lui aussi à son niveau sur le comment organiser des frégates ou des expéditions avec des bateaux à la vapeur qui demandaient justement des stratégies différentes de progression et d'ajustement entre les différents bateaux. Donc la marine m'intéresse et replonger dans l'histoire, je trouve ça passionnant de voir qu'on peut trouver des liens avec dans la France, dans le temps long, justement, ces liens avec la marine française et la royale. Voilà.
Voilà, et d'ailleurs, le génie maritime, Saint-Louis l'a eu, parce qu'en partant d'Aigues-Mortes, Il n'avait pas la flotte qu'il fallait. Il a affrété les bateaux de commerce. C'est-à-dire,
il a construit Aigues-Mortes aussi.
Absolument.
Il a construit le port d'Aigues-Mortes, qui est maintenant à quelques kilomètres évidemment de la mer.
Voilà.
Mais il a construit justement pour avoir un débouché sur la mer Méditerranée.
Voilà. Donc, si je m'adresse de nouveau à Margot Guiguin, si la France, dans un danger de perdre ses frontières et sa sécurité, demanderait à la marine marchande de devenir une marine qui rejoint la Royale, vous êtes prêt, Margot Guiguin, à défendre la France?
Alors, je ne saurais répondre à cette question. Car
parce que vous seriez officier.
Ce n'est pas du tout le même corps de métier entre la marine nationale et la marine marchande. C'est vraiment deux entités différentes. Je ne pourrais malheureusement pas répondre à cette question. J'en ai aucune idée, compte tenu de l'actualité internationale. Pour le coup, ce n'est pas de mon ressort.
Oui, mais dans le cas où la France est en danger, toujours la marine marchande était obligée d'intervenir auprès de l'armée. C'est-à-dire, c'est la France elle-même, son commerce, que vous véhiculez. Maintenant, je m'adresse à un jeune, Gilbert Gamel, qui vit au Liban, et le Liban est un pays de ports. Tripoli, Jounieh, Beyrouth, qui a vécu le drame de l'explosion semi-nucléaire presque. Sidon, Tyr. Alors, est-ce que le Libanais se sent encore phénicien, cher Gilbert ? Avec fierté d'être un peuple maritime et de sentir cette ouverture à la mer.
Docteur Antoine, septembre dernier, j'étais avec mes amis en train de prendre un verre et un ami à moi, c'était un Français, il m'a demandé « C'est quoi la mer pour toi, monsieur Gilbert ?» Je lui ai répondu, après une petite réflexion, « C'est notre meilleur voisin. » On a du nord, et de l'Est, la Syrie, on a du Sud, Israël ou Palestine, la mer pour nous, c'est notre meilleur voisin. Parce que hier, vous m'avez demandé comment ma génération perçoit ou voit la guerre ou même les actualités au Liban. Je vais vous répondre franchement que ma génération ne voit pas la guerre au Liban. Ma génération voit une guerre qu'on nous impose et c'est très différent. Oui, on a nos racines qui sont phéniciens, mais on a combattu pendant des siècles et des siècles pour préserver notre culture et nos racines. Si vous voulez, on peut en parler de plus sur les récentes actualités de Liban et faire le lien.
Oui, absolument. Moi, je voulais absolument garder ce côté maritime de ce pays du Liban parce que l'explosion du port de Beyrouth fut une véritable catastrophe et l'expression
catastrophe
un peu d'une
nucléaire.
Crise nationale. Semi-nucléaire, presque de la bombe.
Semi-nucléaire. On a des centaines de morts, on a des milliers de blessés, on a des quartiers qui ont été rasés. Et on a pas mal, on a entre 5 000 à 10 000 de déplacés lors de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020.
Absolument. Alors je me retourne de nouveau vers Bertrand de Lesquin pour lui demander un peu, est-ce que ces projets de marine océan concerneront aussi les côtes de toute la Méditerranée et quels sont vos futurs projets pour, dans cette très belle revue pour explorer le monde maritime et des océans? Est-ce que le Liban est dans vos projets, par exemple?
Écoutez, le Liban et la Méditerranée sont toujours dans le scope, comme on dit, de Marine et Océan, qui est une revue trimestrielle, donc qui est une revue papier et une revue numérique, hein, présente sur les sites Internet et sur les réseaux, et qui est une revue qui traite de tous les grands enjeux maritimes, hein, qu'ils soient géopolitiques, militaires, économiques, environnementaux, scientifiques, on parle d'innovation, on parle aussi d'histoire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour rester en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, mais je vous rappelle que cette année, on fête les 400 ans de la marine, hein, avec la naissance de la marine en 1626, hein, en tout cas la naissance officielle de la marine en 1626, cette marine construite par Louis XIII et le cardinal de Richelieu, qui a été ensuite, de manière un peu illégale, mais en tout cas entretenue et développée par les rois de France, et notamment par Louis XVI, si on revient à ce qui était dit précédemment, et qui a permis à la France d'ailleurs de soutenir l'Amérique avec une marine très forte, et le comte de Grasse et cette victoire exceptionnelle à la, bataille de Chesapeake. Donc, on couvre, si vous voulez, tous ces événements-là, donc les 400 ans de la marine cette année, et puis tous les grands enjeux liés à la mer. Et donc, nous, on invite tous ceux qui sont intéressés par ces questions à nous retrouver sur notre site internet, www.marine-océan-au-pluriel.com. Voilà, pour être informé de ces grands enjeux. Il faut savoir que la France, je fais très rapidement, mais est une grande nation maritime avec 11 millions de kilomètres carrés, présente sur pratiquement tous les océans, et donc une marine qui permet à la France de défendre ses intérêts sur toutes les mers. C'est les intérêts du pays, les intérêts, assurer la protection des Français présents dans toutes ces régions du monde. Donc voilà, c'est important, assurer aussi la protection des partenaires de la France. Donc nous suivons ça avec beaucoup d'attention et bien sûr, le Liban et la Méditerranée en font partie.
Margot Guiguin est toujours avec nous ? Oui ? Est-ce qu'elle m'entend, Margot Guiguin ? Ah, bon, puisque le micro est coupé, je reviens vers Monseigneur.
Oui, oui, je vous entends, pardon.
Ah, Margot, on voulait un peu avoir vos projets d'avenir en tant que futur officier de la marine marchande et un peu faire entendre votre voix avant, si vous souhaitez rester avec nous, vous pouvez, mais un peu entendre votre impression actuelle comme jeune primé de ce concours et votre vision de la mer devant le Havre qui ne manque pas. D'horizon.
Alors moi tout d'abord mes ambitions c'est vraiment de me tourner vers le développement durable, d'être quelqu'un de très engagé aussi dans l'écologie maritime parce que je pense que c'est important et même je suis sûre que c'est important, donc je souhaiterais voilà devenir une officier de la marine marchande engagée dans cette voie-là.
Ça c'est un très très beau projet, cher Marine, et si vos bateaux vous mènent vers les rivages du Liban, n'hésitez pas à faire escale et de couvrir ce beau pays, les princes qui
très
vous
beau
ont. Ah, très beau. Merci beaucoup, cher Guiguin Margot. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez. Je donne la parole encore à Eudes d'Orléans, notre cher Monseigneur, pour ce projet, de nous parler, sur quel site on peut vous suivre, jusqu'où vous allez puiser cette profondeur de l'histoire et quels sont les buts à atteindre.
Alors vous pouvez me suivre, en tout cas pour la lettre elle-même sur Substack. J'ai mon propre site donc sur Substack, et @eudesd'Orléans, tout attaché. Et de là, vous pouvez accéder à la lettre, qui est une lettre hebdomadaire. Donc, il faut s'abonner, c'est gratuit. Donc, ça vous permet de recevoir tous les dimanches à 11h la lettre dans votre boîte mail. Mais je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, entre autres, parce que j'ai une vie professionnelle aussi à côté. J'ai présent aussi sur Twitter et Blue Sky qui permettent de faire le lien justement vers la lettre Substack. Donc ça c'est pour le site, pour le réseau. Vous pouvez aussi voir la généalogie de la famille depuis Louis-Philippe jusqu'à mon frère Jean sur d'Orléans.org. Vous pouvez voir aussi la famille artiste. Des enfants de Louis-Philippe et de toutes les générations jusqu'à maintenant aussi sur un autre site qui est princedorléans.galerie. Et j'ai même moi-même construit un site internet où je suis présent en tant qu'artiste, dessinateur, aquarelliste. Donc vous voyez, je m'occupe, je fais plein de choses, c'est passionnant. Mais voilà, actuellement je suis focalisé sur cette lettre parce que je pense que c'est le moment où les Français et les Françaises ont besoin de replonger dans leur histoire. On voit qu'ils sont passionnés d'histoire, on voit que les émissions de Stéphane Bern sont toujours aussi bien appréciées, et toutes les autres émissions historiques à la télévision, évidemment. Et je pense que notre famille a aussi un rôle à avoir, justement, pour accompagner les Français et les Françaises sur cette... non seulement cet amour de l'histoire, parce que c'est important, mais aussi de réflexion sur la France dans le temps long, parce que nous sommes en République, on est passé par l'Empire, on est passé par des des moments des hauts et des bas dans la France, par des moments de désespoir, des moments, des bons moments aussi. Et donc, il faut savoir se rappeler, il faut savoir rafraîchir sa mémoire sur tous ces éléments qui permettent de continuer à espérer que notre pays puisse redevenir, oui, la France qu'elle a toujours été, sans qu'on la détruise, sans qu'on la mette de côté, sans qu'on la nie. Donc c'est une façon de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec son propre passé. Parce que moi, mon objectif, c'est le futur, c'est les jeunes générations, c'est donner envie, c'est montrer qu'il ne faut pas désespérer de la France, qu'on est passé par là, on a toujours rebondi. Et mes lettres le montrent. Voilà, c'est un peu l'objectif.
Absolument, Monseigneur. Et je trouve ça très touchant, surtout que tous ceux qui parlent de la France éternelle ne pensent pas à une simple métaphore. D'ailleurs, Bertrand de Lesquin, dans votre revue « Marine et Océan », j'ai remarqué que vous consacrez toujours une ou deux pages, parfois trois, illustrées à l'histoire profonde de la marine et ses échos, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais oublié ces grands noms de la marine de la Royale, n'est-ce pas?
Oui, absolument, oui, tout à fait. C'est une dimension extrêmement importante de la revue, hein, la dimension historique. Donc on présente, on fait le portrait de grandes figures de l'histoire de France qui ont participé à la construction de la marine ou aux explorations de la marine. Donc ça, c'est absolument incontournable. Si on veut inscrire un titre dans la profondeur de l'histoire, du temps, des références, oui, c'est absolument indispensable.
Et l'amiral Joinville mérite 3-4 pages pour ce qu'il a fait pour le retour des cendres, pour un empereur qui n'a pas eu le génie maritime comme ses ancêtres, surtout en Égypte, devant Nelson, l'amiral Joinville, etc. Et là, puisque nous parlons de retour de France profonde, je me permets, en simple chrétien d'Orient, de dire monsieur Vicomte de Lesquin et le prince d'Orléans, de vous parler d'une expérience que j'ai vécue dernièrement à Clermont-Ferrand. J'étais surpris, j'arrive invité par des amis, des proches de mes anciens étudiants, dans une ville qui a souffert, qui pour moi est la ville de François Michelin, qui est un prince à sa manière, que j'ai connu tout jeune dans les milieux philosophiques, parce qu'il venait philosopher avec nous. Et qu'est-ce que je découvre? J'arrive à Clermont-Ferrand pour parler de mes expériences de la guerre et le reste, et je découvre des jeunes, un jeune couple, qui, ayant vécu dans cette ville une expérience douloureuse que la France vit, un quartier qui s'est embrasé, on ne sait pas comment, où il y a eu des règlements de compte, des familles qui voyaient devant eux presque, cher Gilbert, je reviens à vous, de ce que les Libanais ont vécu dans leur quartier pendant la guerre, et ils ont décidé, du haut de leur modestie et dans leur maison, de transformer ce quartier, et au lieu de la violence et le sang, de créer un centre qui, paradoxalement, porte le nom de Marine, Maison de Marie, est fondée par Marine de Poncin et son époux Alexandre de Poncin. Ils ont transformé ce quartier en un lieu de dialogue, d'amour et de charité, ouvert à tout le monde, dans un quartier où Clermont-Ferrand, malheureusement, vivait les, je sais pas comment les appeler, des affrontements de milieux, de factions qui ne respectent pas la paix civile en France. Alors, est-ce qu'Alexandre et Marine, ou Marine et Alexandre de Poncin sont avec nous?
Nous sommes présents.
Voilà, Monseigneur, si vous voulez rester avec nous, vous verrez un peu la France profonde, comment elle renaît de ses cendres. Gilbert, restez avec nous, parce qu'on a failli avoir une petite libanisation de Clermont-Ferrand. Alors, on vous écoute. Parole à l'époux ou à l'épouse, je vous laisse gérer votre propre charia. Alors, racontez-nous l'histoire de cette création.
Alexandre. La Maison de Marie, et je salue avant Gilbert, bonjour Monseigneur, et bonjour Monsieur de Lesquin. Je reprends vos deux termes qui ont été employés dans cette première heure. qui sont précis et il s'agit de nommer les choses, c'est le temps des paradoxes et c'est la sérénité conciliatrice. La Maison de Marie, c'est un projet qui, en réalité, ne nous appartient pas. Et si nous devions le séquencer en trois étapes de vie, c'est une première étape de 15 mois, une seconde étape de 18 mois et une étape en cours depuis 6 mois environ. Précisément, c'est l'intuition d'un ex-voto à grande échelle, qui était un premier acte de foi pour être concret et nommer les choses, puisque notre fils, nous avons trois enfants, notre fils Siméon a été guéri par la Vierge de la Salette. Et nous avions l'intuition qu'il fallait faire quelque chose de grand, de beau, et qui réponde à un enjeu plus grand. Voilà, c'était la première intuition. C'était l'intuition aussi qui s'est partagée par la lecture par mon épouse Marine d'un ouvrage écrit par Monseigneur Jean-Claude Boulanger qui se nomme Le chemin de Nazareth et qui reprend trois étapes clés que nous avons souhaité incarner par étapes progressives, trois termes clés. Un lieu d'habitation, un lieu de famille et un lieu d'intériorité. Et là-dessus, Marine, dans ses 15 premiers mois de maturation, a eu plusieurs intuitions et plusieurs éléments qui sont venus progressivement.
Alors, Marine de Ponsin.
Merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, comme Alexandre l'a dit, il y a eu donc ces trois étapes. Je dirais qu'il y a d'abord eu, de manière peut-être un petit peu surnaturelle, je ne sais pas si ce terme peut parler aux auditeurs, mais en tout cas une forme de oui et d'abandon. C'est-à-dire que nous avons vécu effectivement une grande joie pour notre fils, et pour être plus précis, il avait des très grandes difficultés sur le plan du langage, et donc son langage était minimal, voire quasi inexistant. Et c'est vrai que je l'ai emmené à Notre-Dame de la Salette, et j'ai fait une demande de manière extrêmement précise, et le lendemain, notre fils s'est mis à parler. Et après, il y a eu ce temps de maturation, de lecture, d'intériorité, de se demander est-ce qu'on doit y aller, sachant que familialement, nous vivions des vraies difficultés. Et pour autant, je me suis dit, c'est pas parce que nous vivons ces difficultés-là de famille, comme toutes les familles de France, elles peuvent en rencontrer, que je vais m'arrêter. Et c'est vrai que il y a eu ces lectures qui ont été faites, et puis il y a eu à un moment ce oui donné, cette conviction qu'en fait, si un oui était donné, le reste viendrait d'une certaine manière un peu en surabondance. Et je peux témoigner que c'est vraiment ce qui s'est produit, et que finalement, c'est ce premier pas de ce premier oui qui est finalement le plus vertigineux. On a eu beaucoup de débats, mon mari et moi, sur la manière de faire. Parfois, on avait des désaccords, mais on était quand même dans une forme de confiance et d'abandon dans le fait de se dire que tout ce qu'on voyait, comme vous l'avez très bien expliqué, Monsieur Assaf, tout ce qu'on voyait autour de nous était abominable, et que notre situation de vie de famille liée à du burn-out, du chômage, etc., n'était finalement rien par rapport à la violence qui se passait sous nos fenêtres. Pour vous donner juste un exemple, mais notre fille, notre dernière petite fille, qui a sa chambre, qui donnait sur la rue, n'a pas pu dormir dans sa chambre pendant 3 mois, parce que c'était les règlements de compte en bas de chez nous, c'était la violence, c'était des bruits, enfin, vous pouvez très bien imaginer.
C'était la drogue, pour simplifier les choses. On vivait Nous vivons dans un quartier qui, pendant plus d'un an, un an et demi, a été sous l'emprise d'un trafic de drogue à grande échelle au cœur de 5 établissements scolaires qui sont dans le centre de Clermont-Ferrand. Et nous, nous avions la chance, entre guillemets, d'avoir des dealers qui étaient en bas de chez nous, d'avoir des consommateurs qui venaient en bas de chez nous, de côtoyer tout un tas de personnes. Et on a même eu un mort devant la maison de Marie, concrètement. Le fait est simple, c'est un jeune Albanais de 19 ans qui était tué lorsqu'il était en train de guetter, tout simplement. Et nous avons été les témoins oculaires du meurtre, comme dans un film, avec une voiture, avec la voiture qui se baisse, avec la vitre qui se baisse et l'arme qui tire et la voiture qui part en courant. Voilà. Donc pas besoin de regarder des films d'action on était en plein. On a eu aussi droit au caillassage dans notre propre maison. Et effectivement, tous ces éléments auraient pu nous dire de partir, en fait. Et d'ailleurs, tous les gens nous disaient, mais partez. Qu'est-ce que vous faites encore dans ce quartier? C'est foutu, c'est fini. Et nous avions l'intuition qu'il y avait un souffle de vie, il y avait un combat intérieur, une liberté extérieure à prendre qui devait être prise, justement pour le bien de tous aujourd'hui et juste pour matérialiser comment ça s'est passé. C'est que dès lors que le chantier de la Maison de Marie a commencé à se faire, un chantier bénévole de 18 mois, certains jours, des gens venaient pleurer de joie devant la future Maison de Marie en disant « voici un lieu de lumière ». Il fallait bien se rappeler qu'on était dans un lieu de mort.
Absolument. Alors, Monseigneur, j'aimerais bien, vu ce témoignage touchant, bouleversant, comment un lieu de crime et de sang devient un lieu de vie, à l'échelle de la France. Quand on vous parle à vous de cette famille qui a tant servi la France, qui a eu ses martyrs, qui a eu ses morts, un des fils de Louis-Philippe à sa chapelle à l'angle de la Porte Maillot, je ne veux pas revenir à toutes ces histoires. Quand on parle de la France fille aînée de l'Église, vous-même qui interrogez la profondeur de l'histoire de France et qui voyez aujourd'hui les violences qui naissent dans des villes qui furent des villes de la France profonde, comment vous réagissez et quelle teinte spirituelle vous donnez à votre discours?
Je comprends parfaitement la situation. Merci beaucoup à Alexandre et Marine pour votre témoignage. Je trouve très, très profond, très touchant, très d'actualité. Et par votre geste, par votre engagement avec la Maison de Marie, vous êtes au cœur de ce combat qui anime la France depuis plusieurs générations, depuis plusieurs siècles. Cette France qui est une terre de combat depuis son baptême, depuis sa confirmation. Quand je parle de confirmation, je pense à deux actes importants que sont que ce soit le vœu de Louis XIII par ce vœu il donne sa personne, son pays et l'ensemble des Français à Marie. Je pense à Jeanne d'Arc, mais à Jeanne d'Arc sous l'angle de la triple donation où Jeanne par un acte de juridique. Le roi lui donne le royaume, Jeanne donne le royaume à Dieu, et Dieu par Jeanne donne de nouveau le royaume au roi. Et ces actes ont été notés par notaire comme un acte notarié. Donc la France a toujours été cette terre de combat avec ses hauts, avec ses bas, avec ses luttes. Je pense à la Révolution, mais pas que. Je pense au 19e aussi, où la France a a souffert d'une déchristianisation épouvantable avec et en même temps il y a eu de très beaux saints au 19e siècle qui ont permis de construire et de continuer d'avoir ce d'être présent, je dirais, au cœur de nos situations où chacun doit être à hauteur d'homme et de femme. Même si on représente une famille qui a traversé les siècles, nous-mêmes aussi, on agit à hauteur d'homme en fonction de ce que l'on est, en fonction de ce qu'on peut faire, de la façon dont on peut témoigner, de la façon dont on peut agir. Et donc, moi, je le fais à ma façon, hein, avec cette lettre, avec d'autres actes aussi que je pose, évidemment. Mais la France est une terre de combat. La France a toujours été une terre de combat violent, entre le bien et le mal, entre les forces du mal qui essayent de détruire. Et ce que vous citez dans votre environnement particulier en fait partie, je dirais, la drogue, la violence, l'embrasement, je dirais, du quartier, le fait que vous avez vu un meurtre sous vos yeux, etc. Donc, mais vous êtes mis sous la bonne protection, celle de Marie. C'est la meilleure. Quand on est sous son voile ou sous son manteau, la Sainte Vierge nous protège. Donc, dans cette vision spirituelle, chacun doit mener ce combat à la mesure de ce qu'il peut mener, parce qu'on est dans un combat. Et c'est pas pour, je dirais, le fait de montrer que la France est vraiment une terre de combat, c'est qu'on nous a donné Saint-Michel, l'archange, le premier qui a lutté contre le mal. Et quand on voit, je dirais, les relations entre la France et Saint-Michel, ça remonte au 7e siècle avec le Mont Saint-Michel, avec l'évêque d'Avranches qui a refusé au début de construire quelque chose. Et ben Saint-Michel a montré un peu plus de force, il lui a montré qu'il fallait qu'il construise un lieu où on est le culte de Saint-Michel. Donc si la France a ce saint particulier comme saint patron, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien aussi que Louis XIII a consacré la France à Marie, et ça a été repris ensuite par Louis XIV, Louis XV. Je pense que Louis XVI l'a fait de façon confidentielle le 10 février 1790. Après, ça a été un peu abandonné par Louis XVIII et Charles X. Louis-Philippe a complètement supprimé la chose. C'est très dommage. Et pourtant, au 19e, c'est un des plus grands siècles mariales en France, que ce soit au niveau des apparitions, mais aussi des préparations des cœurs à travers les différents grands saints amoureux de la Sainte Vierge. Donc, on a chacun à notre niveau, je dirais, d'être acteur d'être acteur de ce combat. Voilà.
Absolument. Je ne trouve pas, Monseigneur, de réponse plus juste et plus royale. Et je me tourne vite en une minute, cher Gilbert. Kamel, dites-moi la manière dont les Libanais demandent la protection de Notre-Dame du Liban pendant toute la guerre, jusqu'à même inventer des miracles, qu'elle se retourne, qu'elle sourit. Enfin, je ne dis pas inventer, les miracles sont vrais en France. De la Salette à Lourdes jusqu'à la déclaration de l'Immaculée Conception, ça a ébranlé les papes. Alors, Notre-Dame du Liban, en une minute, Gilbert, vous qui êtes, je révèle votre secret, un peu le mien aussi, vous sortez d'une soutane, vous êtes fils de prêtre, mais on ajoute maronite. Pour ne pas parler d'erreur. Cette Vierge est toujours présente dans la mystique de la guerre au Liban, Notre-Dame de Liban, Harissa, n'est-ce pas?
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, Notre-Dame du Liban, c'est le sanctuaire maronite de Harissa, sur les hauteurs de Jounieh. C'est une statue de la Vierge qui domine la baie de Beyrouth, les bras ouverts sur le pays entier. Pendant la guerre civile et surtout pendant la guerre de 2024 et de 2026, quand Beyrouth brûlait, quand les quartiers s'entretuaient, quand l'État avait disparu, les gens montaient à Harissa, pas seulement les chrétiens, même les musulmans, aussi, surtout les Druzes, des gens de toutes les communautés qui venaient chercher quelque chose que les hommes ne pouvaient plus donner, un signe que le Liban existait encore, que quelqu'un veillait sur ce pays. Notre-Dame du Liban n'est pas seulement un symbole religieux.
Voilà.
C'est le symbole d'un peuple qui refuse de mourir.
Absolument.
Qui prie quand il ne peut plus se battre, qui lève les yeux vers la montagne quand la plaine est en feu. Et c'est exactement pour ça que je dis aujourd'hui, c'est que toutes les milices, de Hezbollah jusqu'à l'OLP, jusqu'à toutes les milices étrangères depuis des années qui ont trahi ce Liban-là, celui de Harissa, celui qui appartient à tout le monde.
Voilà.
Une organisation, des organisations qui sont financées par l'extérieur, qui veulent nuire.
Il faut conclure, Gilbert. Il faut conclure.
Oui, et que Notre-Dame du Liban, elle reste là. Notre propice.
Voilà.
Elle est là.
Sans oublier, Monseigneur, cher Gilbert et Marine et Alexandre de Poncin, que là où ils nous ont parlé dans ces dernières secondes qui arrivent, un pape Urbain II sur la place de la cathédrale de Clermont-Ferrand a indiqué l'Est, allez sauver ces chrétiens, le Christ le veut. Je vous remercie tous et que Radio Courtoisie reprenne ses droits et je vous retrouve tous dans une autre émission avec nos royautés. Je vous remercie de tout mon cœur.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Antoine Assaf et Alexandre Apreval, dirigé aujourd'hui par Antoine Assaf, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 2 mai 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.